C'est ça. Donc ça change au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Je suis religieux, moi.
Au cul de l'église.
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 De l'église.
Françoise. On y est tous là, à Saint-Afrique, bien sûr, à la radio de Saint-Af, vous venez nombreux, nombreuses, on vous attend.
Au cul de l'église.
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 Du cul de l'église, ouais.
Au cul de l'église. Au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Tu veux que je dise quelque chose dans ton micro ?
Au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Prêt les gars ? Ouais, ouais, ouais.
Allez, au cul de l'église,
hein. On est parti
pour l'émission qui va tuer du Dieu, le cul de l'église.
Bienvenue à tous et à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Saint-Afrique dans l'écoute du cul de l'église.
Exactement.
Bonsoir Cacapo, comment
bonsoir.
Tu vas ?
Eh ben ça va, impeccable.
Ben voilà, ben petit comité ce soir, donc Cacapo à ma gauche, Adeline à ma droite, bonsoir.
Coucou.
Ça va ?
Ça va bien.
Et ben voilà, et on souhaite pas de bonne année parce que tout le monde le fait, donc ben ouais, pas de coup, raison qu'on le fasse quoi.
Exactement, ça sert à rien.
On fait un grand coucou à Jeannot qui est derrière la vitre et qui a la technique, ce soir sur une nouvelle table de mixage, un truc de ouf qui vient dans tous les sens, mais qui a ses petits défauts. Et,
voilà.
Que voilà, le temps de s'apprivoiser avec ce nouvel appareil, n'est-ce pas ?
D'un côté, il vaut mieux sur le cul de l'église que sur une autre,
autre truc. Oui, non, c'est clair, fait pour ça quoi, d'ailleurs. On peut faire signe aux gens qui nous écoutent. Si vous voulez vous tester à la radio, eh ben, le cul de l'église, c'est fait pour, la preuve. Voilà. On ne s'entend pas dans les... Non, mais c'est pas grave, on ne va pas le répéter 15 fois. Ok, et eh ben voilà, on fait le tour. 136e émission. Et oui, quand même, c'est pas mal. 136e émission, tout en réécoute sur le site internet.
136, ça, ouais. Il me semble plus.
Eh ben écoute, non, en même temps, il y a eu des petits trous ces dernières semaines. Il y a des fois, voilà, on n'était pas présents. Eh ben on va commencer avec la chronique d'Adeline. Est-ce qu'on a le générique d'Adeline dans la poche ? Eh ben c'est parti. Adeline,
je
c'est à toi.
Jamais, quand même. J'ai cassé le disque.
No, God, please, no.
Oui, tu as raison, parce que finalement, ça n'est pas très grave, parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes.
Et bonjour à toutes et à tous, donc j'espère que vous profitez bien de cette semaine de reprise dont les degrés diminuants coïncident avec la torpeur croissante. Mais moi, je m'en fous, car je suis encore en vacances. Probablement, avez-vous... Qu'est-ce qu'il que... Il se passe quelque
y a
chose
rien, y a
d'accord.
Rien. Mais on s'entend dans les casques.
Ouais.
Merveilleux. Je recommence.
Et on t'entend aussi, Jeannot.
Youpi. Donc probablement avez-vous respecté la tradition natividiale consistant à manger beaucoup plus de nourriture que votre corps ne peut en traiter. Ou alors, il faudrait que ça se répartisse différemment dans le corps. Peut-être qu'il y a une annexe de l'estomac dans la cuisse, qu'en sais-je ? Bref. Pour rester dans le thème, cette chronique va parler de nourriture, de grande bouffe et d'histoire.
Hé, hey, le poulet, il se tire, le poulet, attrapez-le hey. Allez, merde, rattrapez-moi ce putain d'enfoiré de poulet, maniez-vous.
Donc, pour cette nouvelle année, je vais vous parler de l'histoire de l'alimentation. Wouhou ! L'histoire, c'est super cool, ouais. Alors, évidemment, ça va être un peu raccourci, schématisé, qu'à l'origine, en fait, le truc dont je vais parler, c'était un cours d'une heure qu'on avait écrit à plusieurs pour des lycéens quand j'étais à la fac, mais ça reste plutôt exhaustif et pas trop des conneries.
Tu veux dire que t'es en train de nous proposer un cours de lycée, c'est ça ?
Tout à fait.
Ok, d'accord, allez, c'est parti. Prenez vos cahiers,
cahier, stylo,
allez,
attention,
ready.
Pas de copie.
Alors, donc on a la première étape, donc ça c'est le paléolithique allant avec le premier mode d'alimentation et celui que les espèces humaines ont le plus connu, donc celui de la chasse et de la cueillette. Donc la période s'étend de manière très approximative de 1 million à 6 000 avant Jésus-Christ. Donc je vous dis, ça fait très très long comme période. Mais pendant ces très très longues périodes, les populations qui comportaient plusieurs espèces humaines, qui sont succédées ou croisées et qui ont connu des variations climatiques et géologiques extrêmement importantes, ont quand même eu des modes opératoires pour s'alimenter qui étaient à peu près les mêmes, à savoir la chasse, la pêche, la cueillette, mais également le charognage. Donc pour ce qui est des modes de vie, ils sont nomades, voire semi-nomades avec l'arrivée du mésolithique qui précède le néolithique, soit le début de la sédentarisation. J'espère que je ne vous ai pas perdu. En fait, ça va être facile, vous inquiétez
pour
pas.
Pour l'instant, ça va.
Ça va aller. Donc mais ça là, c'est dans les périodes très 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 récentes à l'échelle de cette très grande distance temporelle qu'est le paléolithique. Donc qui prend fin aux alentours là, de 8000... 8000 before present, BP comme on dit dans le jargon. Donc les types d'outils de chasse évoluent en différentes cultures dans cette très longue période, mais on peut retenir pour s'alimenter, pour chasser, l'utilisation de harpons, de propulseurs, de lances et pour finir, de très jolies petites flèches pour les périodes les plus récentes, le tout taillé en pierre.
Et encore plus récent, il y a les armes à feu.
Effectivement, mais du coup, ça, on va voir après.
C'est pas le paléolithique.
Donc là, j'ai très mal de passer aussi vite sur une période aussi longue, mais que voulez-vous, une chronique à la radio, ça doit être assez brève et j'ai encore plein de choses à raconter.
Ça veut dire...
Alors, comme je l'évoquais juste avant, on arrive ensuite au néolithique, soit en France, aux alentours de 6000 avant Jésus-Christ. Donc avant évidemment, le néolithique, soit la sédentarisation des groupes d'humains, qui pour le coup sont des homo sapiens sapiens tout comme nous, ne s'est pas faite en une fois, façon crac, boum, paf, ça fait des néolithiques. Mais bien de manière progressive et complètement hétérogène à l'échelle de la France. Oui, car ici je me concentre juste sur les phénomènes étudiés en France, j'ai pas la moindre idée de ce qui se passait en Australie à cette époque. Vous avez Wikipédia. Alors, bref, donc, les néolithiques. Le gros changement, donc, outre un réchauffement climatique notable ayant eu lieu au mésolithique, c'est la sédentarisation des populations. Donc, cela s'accompagne des premières traces d'agriculture et d'élevage, mais également de stockage alimentaire dans les premiers contenants céramiques. Donc, on commence aussi à conserver les aliments avec l'aide du sel. Donc, après des millénaires de nomadisme et de chasse dans les steppes glacées à consommer quasi sur place, ça fait une sacrée différence. Alors là, niveau bouffe, on a des pois, des fèves, du blé que l'on cultivait. On retrouve aussi dans les viandes notamment de l'ovin, caprin, porcin que l'on élève. Et pour autant, la chasse continue et l'on mange du cerf, de l'auroch, du sanglier et du chevreuil. Donc un menu néolithique pourrait par exemple être le suivant. En entrée, pain plat avec de la bouillie de céréales et avec du fromage blanc ou de la moelle d'œuf bouilli. En plat, viande grillée ou en ragoût avec de la purée de pois et d'ail des ours. Et enfin en dessert, des fruits. 5 fruits et légumes par jour. Youpi. Le temps passe et passe et beaucoup de choses ont changé. Enfin, pas trop pour ce qui est des régimes à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Donc de 2200 à 52 avant Jésus-Christ. Il y a une continuité avec le néolithique, une expansion de l'agriculture et de l'élevage. Par contre, on voit de nouvelles espèces, comme la vigne et l'olive, s'inviter au menu. C'est aussi le début d'un commerce florissant, celui du pinard, mais aussi d'autres produits plus exotiques, comme les dattes. Donc la cuisine gauloise est principalement mijotée à l'eau, il n'y a donc pas de friture ni de rissolage. Les recettes sont souvent à base de légumineuses et de viande de porc. On prépare des ragoûts, des compotes, à quelques ingrédients près, on n'est pas loin du traditionnel rôti du dimanche chez mémé. Donc côté cuisine, les récipients sont beaucoup plus variés et les ustensiles également, car désormais l'homme utilise du fer en grande quantité dans son quotidien. Donc on disposait de quoi taillader proprement le gigot, mais aussi les têtes des copains, si besoin ou envie. Oui, c'est une période que j'aime beaucoup.
Si tu n'as pas vu mon cul le voici, si tu n'as pas vu mon cul le voilà, si tu n'as pas vu mon cul le voici, si tu n'as pas vu mon cul le voilà.
Donc je passe rapidement sur la période gallo-romaine, car c'est tellement riche et intéressant que ça mériterait une chronique en entier. Retenez juste cette petite recette super rigolote, une sauce à base de poisson très très fermenté, proche du nokmum actuel et dénommé garum, qui était très populaire en Méditerranée. Bon appétit, bien sûr. On passe ensuite au Moyen-Âge, donc christianisation, Charlemagne, Clovis, voilà, grosso modo de 500 à 1500 après Jésus-Christ. Et le Moyen-Âge, niveau bouffe, c'est hyper marrant. Donc le commerce national et international s'est hyper développé et des produits rigolos arrivent dans les assiettes et aussi toujours plus de pinards est mis en commercialisation. Et donc ce qui est chouette aussi, c'est que les modes de conservation sont beaucoup plus variés qu'auparavant. On a notamment le sel, mais aussi le sucre, le miel ou le vinaigre, ce qui fait plein de nouvelles bouffes super chouettes. Donc premier truc rigolo, au Moyen-Âge, ou du moins dans les franges aisées de la population, on mangeait sur un tranchoir, à savoir une grosse tranche de pain qui faisait office d'assiette. Moi je dis malin au Moyen-Âge, quand même très pratique. Et alors, ce que je trouve aussi super rigolo, c'est qu'il y avait une classification spirituelle des aliments qui était héritée de l'Antiquité, et qui est à peu près l'inverse de celle qui serait en vogue aujourd'hui. Donc cette classification va de la terre au ciel. En gros, tout ce qui est proche de la terre, donc les racines, les légumes, ça c'était pour les gros pécores, car c'était considéré un peu comme sale. Par contre, ce qui se rapproche du ciel, comme les volailles, était très apprécié de la noblesse. Donc, petit exemple de menu. Le menu noble de luxe. Pan aux épices sur son lit d'herbes aromatiques. Menu Mac Pécor. choux, bouillie d'avoine avec supplément pain bis. Youpi et bonne nuit.
Camisole chimique pour les cerveaux atypiques, pour les acharnés, trop épris de liberté.
Donc vous vous demandez sûrement, mais comment sait-on toutes ces belles choses ? Eh bien ça pourra faire l'objet d'une prochaine chronique, mais je peux vous donner des indices. Scientifique, masochiste, déseur, laboratoire. Bisous, bon appétit.
Je suis libre, ne me dis pas que je t'appartiens. Je suis libre et je sais que je ne te dois rien. Je sais ce que tu diras. De changer mes projets. Je suis libre, n'essaie pas de savoir où je vais. Je sais ce que je dirai, je sais ce que je ferai. Je veux vivre enfin ma vie comme j'en avais envie. Car moi j'aime m'amuser.
Pour ce papier sur l'alimentation à travers les âges. C'était très enrichissant.
Ouais.
Je savais pas qu'il y avait un truc d'altitude là,
pour la nourriture au Moyen-Âge.
Ouais, ouais.
Ouais, c'est rigolo. Hein.
Ouais, c'est pas mal, ouais. Et alors, du coup, tu vas nous raconter aussi après, plus tard, comment on sait ça.
Ouais, parce que du coup, c'est quand même hyper long et complexe. C'est plein de techniques scientifiques tout à fait passionnantes et vraiment très, très rigolotes. Et du coup, ça fera un nouveau papier plutôt que là, enchaîner.
C'est très bien.
Mais sinon, je peux vous dire, c'était quoi la musique ?
Ah oui, mais oui, bien sûr.
C'était Michel Richard qui n'avait strictement rien à voir avec mon papier, avec Je suis libre.
D'accord, très bien.
Et merci sinon, Michel. Ça donne des idées de cuisine aussi,
oui,
pour,
tout à fait.
Pour bientôt. Quoi.
Miam, miam. Bah, tu ne trouveras pas de rock, mais ouais, bon, mais tu non, peux te...
C'est
bon.
Quoi le rock ?
C'est un gros bœuf.
Ah ouais, ok, mais le bœuf sauvage un peu.
Mais
quoi.
Qui n'existe plus.
Ok, d'accord.
Enfin,
très
si,
bien.
Mais pas à la même forme.
Ok.
Il y a des bestioles qui s'appellent auroch quand même aujourd'hui, mais c'est pas les mêmes que celles qu'on appelait auroch à la préhistoire.
Ok, très bien. Eh bien, c'est très bien. On se couchera un peu moins con ce soir, voilà. N'est-ce pas, oui. Cacapo
Exactement. Hein.
Et puis on ira ou pas chasser les pavés casses ou.
Oui, non, voilà. Mais si ça faut toujours.
Même si c'est noble, mais on n'est oui, pas c'est... obligé quoi.
Bah, et puis c'est tellement bon.
Allez, moi justement, Cacapo, c'est à toi. C'est parti, mon kiki.
À l'ensemble,
les atomes et les particules encore plus petites,
c'est
proton et
moins moins 0. Z plus 5 sur Z égale
la gravité se propage
dans l'ensemble des nombres complexes grand C.
Minuscule brin d'énergie
et des distorsions dans le tissu même de l'espace et du temps.
Oh.
Quelle est la condition sur les solutions?
Selon la théorie des cordes,
il est
les constituants de la matière.
Votre explication ne me suffit pas.
J'ai pourtant clair.
Cacapo. Ah, encore une fois, une répression. Oui, le gouvernement s'attaque aux chômeurs plutôt qu'au chômage. Et oui, ce jeudi 3 janvier 2019, le gouvernement préfère casser le thermomètre plutôt qu'éradiquer la fièvre. En publiant un décret qui accentue les sanctions à l'encontre des demandeurs d'emploi. Le gouvernement ne pose plus de limites dans sa volonté d'accroître les radiations et d'obliger à accepter les jobs précaires. L'année 2019 est placée sous le signe d'une répression inédite. des chômeurs. Lors de ses vœux aux Français, M. Emmanuel Macron a une fois visé les privés d'emploi soupçonnés d'oisiveté. Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage afin d'inciter davantage à reprendre le travail, dit-il.
Mais bien sûr.
Un jour plus tôt, un des décrets d'application de la loi Avenir professionnel publié au Journal officiel a révélé un durcissement inédit des sanctions à l'encontre des demandeurs d'emploi. Comme si les mesures régressives présentées en mars dernier par le ministère du Travail ne suffisaient pas. Le pouvoir a décidé de monter d'un cran encore dans la criminalisation. Au début, le fait de ne pas se rendre à un rendez-vous avec son conseiller pour l'emploi devait être sanctionné de 15 jours de radiation. Des listes au lieu de 2 mois aujourd'hui. Finalement, ce sera 1 mois de radiation selon le décret. 2 mois au bout de 2 manquements et 4 mois au troisième. Quand même, ils y vont fort. Hein. Suivant la petite phrase du président de la République sur les chômeurs qui n'auraient qu'à traverser la rue pour trouver un travail. Ceux-ci sont mis sous pression pour faire baisser les statistiques.
Qu'on leur coupe la tête !
L'arsenal du flicage va encore être renforcé. Ainsi, l'insuffisance de recherche d'emploi, comme le refus de 2 reprises de 2 offres d'emploi raisonnables, d'emploi, vont être sévèrement sanctionnées. Dans un premier temps, le gouvernement avait évoqué des sanctions graduelles. Suspension de l'allocation d'un mois la première fois, de 2 mois la deuxième fois et de 4 mois la quatrième fois. L'allocation devait être diminuée dès la deuxième fois. D'après ce décret, l'allocation est supprimée dès le premier manquement et non suspendue, ce qui permet de conserver ses droits. Le gouvernement est dans une logique d'amalgame entre le 0,4% de fraude et l'ensemble des demandeurs d'emploi. Bon, selon une étude publiée par Pôle emploi, 8% des chômeurs indemnisés, contrôlés, ne chercheraient pas activement un travail. Cela représentait déjà 550 000 motifs de radiation par an en 2017. Et, comme le gouvernement est monté en pression sur cette question, ce chiffre a encore augmenté. Ce critère d'insuffisance de recherche d'emploi n'est absolument pas précis. Cela va permettre de radier tous les chômeurs. Et oui, nous avons le cas d'un privé d'emploi qui avait envoyé 40 CV, qui n'a jamais été reçu par Pôle emploi et qui a pourtant été radié pour ce motif. C'est quand même ouf. La mise au travail forcée des chômeurs ne s'arrête pas là. Le décret abroge aussi la définition du salaire antérieur perçu qui était pris en compte pour déterminer l'offre raisonnable d'emploi. Le demandeur d'emploi sera poussé à accepter la première offre venue, même avec une rémunération très inférieure à celle de son dernier travail, sous peine de perdre ses droits au chômage, alors que l'ancienne règle stipulait qu'elle ne pouvait être en deçà de 95% à 85% du précédent salaire. Le modèle allemand est clairement en train d'être mis en pratique. Comme dans les cas des mini-jobs outre-Rhin, on va se retrouver avec un grand volant de travailleurs précaires contraints d'accepter des boulots dégradés. L'arsenal du flicage va également être renforcé. À partir de mi-2019, l'obligation pour le demandeur d'emploi de remplir un journal de bord en ligne de sa recherche qui sera expérimentée dans 2 ou 3 régions. Quant à la brigade de conseillers dédiés au contrôle des chômeurs, elle continue sa montée en puissance, passée de 200 personnes en 2015 à 1000 d'ici à 2020. Tandis que 1300 postes seront supprimés en 2019 à Pôle emploi. Ah ben tiens donc, c'est bizarre. Avant, le radier pouvait s'adresser au directeur d'agence en cas de recours. Désormais, la réclamation est déplacée auprès de cette brigade. Pôle emploi va être encore plus juge et partie. C'est scandaleux que le gouvernement préfère faire la chasse aux chômeurs plutôt qu'au chômage.
Ton dédé a abusé du LFP.
Allez, un petit chiffre. 584 815... Non, 584 815 offres disponibles pour plus de 6 millions d'inscrits. Face au tollé, Aurore Berger, porte-parole des députés La République En Marche, a tenté de justifier ce ciblage persistant des demandeurs d'emploi. Il serait effectué dans une logique de justice, défendant un équilibre entre des droits supplémentaires, par exemple en matière de formation, et des devoirs de recherche d'emploi notamment. Une obsession de la remise au travail des chômeurs qui s'accommodent mal de la réalité. Hier, sur le site de Pôle emploi, 584 815 000 offres étaient disponibles pour plus de 6 millions d'inscrits. Alors que la colère sociale s'exprime fortement dans les pays, que le bilan d'Emmanuel Macron est loin d'être flamboyant sur le front des créations d'emplois, avec un taux de chômage stagnant de 9,2 à 9,1%, les chômeurs n'en peuvent plus de faire figure d'ennemi public numéro 1. Cette avalanche de coups portés met Malika Zederi de l'APACE, alors l'Association des privés d'emploi, hors d'elle. Elle dit « C'est crapuleux. Des études récentes ont montré que le renforcement des contrôles des chômeurs ne servait à rien. Ça me met en colère de voir que les presque 4 milliards que doit économiser l'UNEDIC correspondent au coût de la suppression de l'impôt sur la fortune. On prend très cher avec monsieur Manu Macron. »
Le monde où personne ne parle.
Merci Cacapo pour ses précisions sur,
sur la plus grande entreprise de France, quoi. C'est quand même un truc de fou, quoi.
Mais ça m'embête que je comptais bien profiter de mon chômage quand même dans les années à venir.
Est-ce que quelqu'un autour de cette table, bon, on n'est que trois, c'est pas forcément très représentatif, mais a déjà trouvé du travail grâce à Pôle emploi?
Non. Par contre, quand j'ai trouvé du travail avec mon conseiller Pôle emploi, je lui ai dit, j'ai cru qu'il allait sabrer le champagne. Vraiment sincèrement heureux, quoi.
Ben, non, mais c'est dingue, parce que moi, à chaque fois que je pose cette question-là, y a j'ai jamais encore trouvé personne qui avait trouvé du travail grâce à Pôle emploi, en fait.
Ben, ce matin, j'y suis allé et je l'ai pas insulté, la fille, mais elle a bien compris qu'en fait, j'en avais rien à foutre de Pôle emploi, que je pouvais trouver du boulot sans elle.
Ben, mais évidemment, tu peux.
Après, ça dépend dans quel corps de métier tu te situes. Moi, je sais première inscription, quand je lui ai dit, ben voilà, moi, je suis archéologue, du coup, elle m'a dit, ah oui.
Bon, alors d'accord.
Bon, c'est-à-dire que votre profil est un peu borderline. Comment ça? Je fais 5 ans d'études, je suis pas borderline, je t'emmerde.
Voilà. Bah après, moi, pour une petite anecdote, j'ai une pote qui était conseillère à Pôle emploi et qui s'est faite virer parce qu'elle communiquait en breton avec ses clients. Avec les demandeurs d'emploi, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, elle envoyait des mails en breton pour ceux qui cherchaient du taf en breton, par exemple, parce qu'elle allait parler breton, elle s'est faite virer. Voilà. La recherche d'emploi est française et républicaine, hein, et ça, voilà, c'est sûr.
C'est ça.
Ok, bon, allez, on va enchaîner sur la suite.
Du coup, c'était les berruriers noirs. Voilà, et le titre, je sais plus. Vas-y, Jeanne, tu peux dire pour voir si tu marches.
Non, c'est pas ça.
En passant.
En
pensant. Ok, et ben voilà. Et ben les berruriers noirs, en pensant. Et Jeannot vient d'utiliser son micro.
Voilà,
c'est,
comme ça,
c'est
on
génial.
Sait que ça marche.
Voilà, parfait. Voilà. Et ben générique, Martoni, c'est parti. Dernière
c'est
chronique.
C'est à moi qui parle, là. Oh, c'est à moi que tu parles. C'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Vas-y, gollerie, non mais quoi, moi j'en ai plein de cul super sur putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans les trois rats comme des merdes et quoi. Qu'est-ce que tu fais quelque chose, toi, pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul, toi, non plus.
I woke up in a girl.
Aide-moi, aide-moi. Mais que ça fait en merde, tu es ce
que I was a prisoner.
C'est fini, on t'en plus l'autre jour.
À Bobigny, l'incendie de trop. Que dire? Qui dénoncer? Et vers où tourner l'indignation? Comment écrire quoi que ce soit qui en vaille la peine? Comment parvenir à soutenir l'indicible d'une nuit d'horreur? Et la remémoration, la répétition en boucle de ces cris de détresse sortis des entrailles de la peur. Et les coups puissants et terrifiés donnés à l'ascenseur dans les dernières secondes arrachées à la vie. Que faire avec ces réminiscences de l'effroi qui nous a traversé le corps? Et mes mains, prises d'un automatisme, venu de je ne sais où, attachant en nœud les draps l'un à l'autre, espérant ainsi en tirer une corde assez solide à laquelle je pourrais m'agripper pour franchir par la fenêtre les 4 étages qui me séparent de la terre ferme. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas, ou plus, ou qui ne l'a jamais été? L'instinct m'ordonne de fuir. J'ouvre la porte de l'appartement, le couloir est envahi d'une fumée épaisse, noire, dense, et je doute qu'il soit possible de descendre les escaliers. Un pompier apparaît alors, dans son imposant uniforme. Il me somme de rentrer me confiner chez moi. Tout en me saisissant le bras, il m'accompagne jusque dans ma chambre. Je le vois paniquer lui aussi, sa voix tremble. Il me demande si tout va bien, je dis que oui. Et il regarde par la fenêtre, me jette un coup d'œil, m'enjoint de rester à la maison et s'en va. J'accours à la fenêtre du salon, ma voisine du 5e étage pleure d'inquiétude. Nous nous parlons tant bien que mal, invoquons Dieu sans cesse, toujours. Quelques minutes s'en suivent, ou peut-être des heures, de gros coups à la porte résonnent jusqu'aux extrémités de mes doigts. J'ouvre, de nouveau les pompiers, je ne comprends pas. Que veulent-ils? Que se passe-t-il? L'immeuble va-t-il exploser? Sommes-nous sur le point de mourir? Plusieurs dizaines de camions rouges, plusieurs centaines de pompiers, un rassemblement gigantesque et les sirènes qui n'interrompent pas leur chant de l'urgence. Je demande à la foule dehors des nouvelles de l'incendie. M'entendent-ils? Jure-le qu'on me tienne informé. Où en sont les pompiers dans leur combat contre le feu? Parviennent-ils à l'éteindre? Quand pourrons-nous sortir? Je lutte pour réussir à capturer quelques syllabes d'écho entre là-bas, où la vie est sûre, et ici, où, pour la première fois, l'ensemble vacille. Ce matin, sur la dalle de la cité, l'élan m'achemine à la rencontre de mes voisins. Épuisés, habités par les fantômes de la nuit dernière, nous cherchons un peu de présence et surtout à fuir le silence de la stupeur. Chacun se réchauffe avec quelques mots timides et gênés.
Nous restons debout, les uns près des autres, sans trop savoir que dire. Nombre de mes frères vont se retrouver à la mosquée, c'est la prière du vendredi. Un temps rompant avec l'agitation de la nuit dernière, la proximité devant Dieu efface les individualités pour les fondre dans le collectif où les âmes se posent, se reposent et s'apaisent. Ce fut une nuit d'horreur, surréaliste. Le premier étage est entièrement brûlé. Il me rappelle étrangement les images de la guerre au Liban ou celle de Palestine. 35 ans que j'ai quitté mon pays natal et jamais je n'aurais imaginé vivre cela, ici. Je m'étais résolu, dès mon arrivée dans l'Hexagone, à faire ce que les Français méprisent, le ménage, et un tas d'autres boulots qui n'engendrent ni gloire ni fierté, seulement le réconfort de savoir que la sueur versée et l'humiliation endurée m'ont permis d'élever mes enfants et de les sortir du ghetto. Il est pourtant venu le temps où je ne peux plus supporter le quotidien dans cet environnement. Dans la cité, pas d'horizon pour les yeux et l'esprit. Impossible d'inspirer l'étendue de la planète visible et invisible. Pas de jardin, pas d'accès à la terre, pas de silence. Seulement du béton pour ceux qui ont perdu la terre. J'ai longtemps voulu retourner à elle et j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir mis fin à cette quête. Les années ont enterré mes rêves lointains, comme le feu a tout dévoré dans l'immensité de son souffle. 4 morts. C'est ce que la presse indique à l'heure actuelle, tandis que 2 autres personnes sont placées en coma artificiel. 4 voisins ont perdu la vie hier soir dans un incendie, un énième incendie, l'incendie de trop. Le feu s'est déclenché chez les locataires du premier étage. On ne sait pas encore comment, et en vérité, l'essentiel est ailleurs. Chaque année, depuis 20 ans que je vis ici, il y a au moins un incendie par an. Soit dans notre immeuble, soit dans les immeubles voisins. À tel point que sentir l'odeur du brûlé, entendre les sirènes des pompiers, sont devenus une habitude qui n'alarme plus personne. L'habitude est la pire amie de l'homme. Dans la matinée, les policiers ont visité les habitants de l'immeuble, avec des photos des victimes adultes, pour que nous les identifions. Je reconnais la femme. C'est la voisine du 9e étage, semble-t-il. Nous sommes plusieurs centaines à vivre dans ce bâtiment de 18 étages. De ce fait, nous ne connaissons pas tout le monde et certainement pas les nouveaux arrivants qui restent nouveaux pendant les 3 premières années, au moins après leur arrivée. Mais cette femme, je lui ai parlé il y a quelques jours à peine. Au fur et à mesure de la matinée, des bribes d'informations viennent s'agglomérer à d'autres, confusément, permettant de reconstituer de façon bancale le scénario de la veille. La famille du 9e étage, paniquée par l'incendie du premier, décide de sortir par la voie la plus rapide, mais fatale, l'ascenseur. Une autre résidente, une femme de 25 ans, s'y trouvait aussi. Ils sont alors pris au piège à l'intérieur et on ne sait comment, arrivés à proximité des premiers étages de l'immeuble, ils sont intoxiqués ou brûlés. Les tonnerres et les cris de l'ascenseur qui m'avaient pétrifié la veille, c'était eux, dans leurs derniers instants. 2 enfants ont péri, 2 fillettes, 3 ans et 7 ans, paraît-il. Je ne peux pas le penser, je ne peux pas l'admettre. Et leur mère, avec elle. Le père est entre la vie et la mort. Nous ne sommes sûrs de rien à l'heure où j'écris ces lignes. Ce dont je suis sûr, par contre, c'est la vitesse étonnante du maire et des bailleurs sociaux contactés par la presse pour affirmer posément que l'immeuble n'est pas insalubre. Avant tout, se dédouaner de toute responsabilité. Par souci de clarté, mon intention ici n'est certainement pas de pointer du doigt un quelconque représentant officiel en particulier. Mais enfin tout de même, sachant qu'environ un incendie par an se déclenche, cela n'a traversé l'esprit d'aucun décideur public d'informer comme il se doit, en tenant compte des différentes langues parlées, les habitants de l'immeuble sur la marche à suivre en cas d'incendie. Parce que peu d'entre nous, pris de panique, savons comment réagir dans une telle situation, et mon réflexe, comme celui des voisins du 9e, à chaque fois, c'est de sortir de l'appartement le plus vite, au cas où tout explose. Personne n'a donc trouvé nécessaire d'organiser des exercices d'évacuation incendie dans nos immeubles. Et puis, la grogne monte parmi les voisins aussi. Le système de désenfumage est-il vraiment efficace? Je l'admets, j'ignore si notre immeuble est insalubre. Je ne maîtrise pas les critères qui déterminent l'insalubrité. En revanche, je sais qu'il ne fait pas bon y vivre, les murs sont dégradés, les odeurs de pisse et d'alcool s'entremêlent dans une répugnante mixture, les ascenseurs tombent en panne trop souvent, bref, l'immeuble est indigne, et c'est tout. Alors que nous payons nos loyers, qui ne sont pas tellement modérés, et nos taxes d'habitation. La cité elle-même est une sorte d'îlot informe recroquevillé sur lui-même, une zone grise et maussade à l'intérieur de Bobigny, ville de relégation sociale et raciale, située elle-même dans la région la plus riche de France. Et on nous parlera encore de redistribution des richesses. Dites-moi maintenant qui va rendre justice aux victimes, quand nous savons que jamais un tel drame ne serait produit à Neuilly-sur-Seine, par exemple. Pourquoi les Roms, les Noirs et les Arabes des banlieues doivent-ils supporter autant de violences et de traumatismes, comme si, davantage que les autres, nous étions faits pour cela? Insalubrité des logements ou pas, les pouvoirs publics portent une lourde responsabilité dans ce drame. Quand vont-ils se décider à déployer les grandes mesures permettant de freiner la propagation des incendies dans les ghettos ? Que font les élus de droite comme de gauche concrètement ? Ma voix qui ne compte pas appelle à ce que de nouvelles législations viennent repenser la vie dans ces immeubles de l'indignité et que les grands projets urbains s'appuient sur nous qui vivons ici, qui avons nos propres revendications. Sans lieu de sociabilité, l'isolement s'accroît. Sans respect pour le lieu où l'on réside, la négligence devient la règle. Nous n'avons pas besoin que BFM TV ou TF1 amènent leurs caméras impudiques quand le feu embrase nos immeubles ou lorsque les balles des policiers tuent nos jeunes. Sans dignité, que reste-t-il ? Aujourd'hui, je ne suis plus la même qu'hier. Les traces de la terreur font leur nid. Je ne leur permettrai pas de s'étendre au-delà de ces lignes que j'écris. Mais qui sait comment mes voisins vont en venir à bout cette nuit ? Mona, habitante de la cité Paul-Éluard, membre du Parti des indigènes de la République. Écoute du cul de l'église, c'était la Canaille du Midi, chorale de chant révolutionnaire toulousaine qui interprétait la Danse des Bombes, une chanson de Louise Michel, qui a été écrite pendant la Commune et du coup qui est interprétée donc par la Canaille du Midi. Voilà, et c'était un enregistrement exclusif, chers amis auditeurs et auditrices, un truc de ouf quoi. Retrouvé au fin fond d'un disque dur externe qui traînait par là.
On a de la chance d'avoir un ancien qui travaillait dans une autre radio vers Toulouse quoi. C'est
et ça, du coup, le texte que moi j'ai lu, c'était donc si vous l'aviez pas cerné, c'était donc une habitante de la cité Paul-Éluard à Bobigny. qui parlait d'un incendie qui a eu lieu, c'était il n'y a pas longtemps en fait, je crois, c'était vraiment il y a moins d'une semaine, je dirais, un truc comme ça. Et voilà, elle a écrit ce texte qui est vachement touchant, quoi.
Et c'est dispo sur quoi, pardon ?
Eh ben, je ne sais plus trop où c'est que je l'ai trouvé, mais en tout cas, c'était publié par le Parti des Indigènes de la République, PIR. Et donc, c'est des gens qui luttent pour la reconnaissance, pour l'égalité, dans, notamment des zones défavorisées, etc. etc. Bon, après, voilà, c'est dit avec des mots très moches, là, de la manière dont je viens de le dire, mais...
Non, mais c'est exactement
mais grosso modo,
ça, quoi.
Ouais, voilà. Bon,
bah, et après, Paul Éluard, si vous savez qui c'est ? Juste comme ça ?
Non.
En fait, Paul Éluard, c'est un poète qui a écrit beaucoup de textes très engagés, en fait, sur, du coup, même ça, là, par exemple.
Ouais.
Et du coup, quand on prend la carte du Parti communiste, on a un poème de Paul Éluard.
Petit poème de Paul Éluard.
Voilà.
Oh là là, c'est beau. Et ben, tu vois, ils osent même donner des noms de poètes communistes révolutionnaires à des cités.
Et qui est bien à lire de Paul Éluard, du coup, c'est « J'écris ton nom ». Et allez le voir, vous. Et celui-là, c'est un des meilleurs qu'il ait pu écrire.
Il paraît qu'il s'appelle « Liberté ».
C'est ça.
Eh bien, c'est sur ce qu'on va rendre l'antenne. Voilà, vous pouvez nous écouter en direct le jeudi soir à 20h. Vous pouvez même nous rejoindre en direct le jeudi soir à 20h. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez nous réécouter le dimanche juste après la messe à midi et le lundi soir à 22h. Et sinon, en podcast sur notre site.
Ou sinon sur le 96.7.
Et bien voilà, c'est ça.
Le 99.9 à Camarès.
Non, à Belmont.
À Belmont, pardon. Le 92.7 à Camarès.
Et le 100.6 à Millau.
Ou sinon le 05 65 49 29 94. Si
l'adresse
vous avez
postale,
des choses
peut-être,
à dire.
Tu as l'adresse postale, peut-être Saint-Cruoche, si vous voulez nous écrire des courriers, des lettres d'insultes,
exactement.
Etc. Voilà.
Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez écrire aussi.
Voilà. Des gros bisous, à bientôt, à la semaine prochaine peut-être. Voilà.
Bonne
semaine de merde, les copains.
Voilà.
Et bonne année
de merde, les copains.
Allez, c'est comme ça qu'on le dira, bonne année.